Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc à nouveau ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Lampedusa, Le Guépard. Chapitre 2, août 1860.
Les arbres ! Voici les arbres !
Ce cri, parti de la première voiture, remonta la file des quatre berlines qui suivaient presque invisibles sous un nuage de poussière blanche. À chaque portière, des visages en sueur exprimèrent une satisfaction pleine de lassitude. À vrai dire, il n'y avait que trois arbres. Et c'étaient des eucalyptus, les fils les plus dégingandés de notre mère nature. Mais c'étaient aussi les premiers que la famille Salina eut rencontrés depuis qu'elle avait quitté Bisacchino à 6 heures du matin. Il était maintenant 11 heures. Durant 5 heures, on n'avait vu que les croupes paresseuses des collines d'un jaune flamboyant sous le soleil. Le trot, sur des parcours plats, alternait rapidement avec de longues et pénibles montées, avec des descentes faites à pas prudents. Pas et trot était également fondu dans le perpétuel tintement des sonnailles, qui finissait par sembler l'émanation sonore de ce décor chauffé à blanc. On avait traversé de petits villages hébétés, peints en bleu ciel. On avait franchi sur des ponts d'une bizarre magnificence des rivières parfaitement à sec. On avait côtoyé des ravins désespérés que le sorgho et le genêt n'arrivaient point à égayer. Pas un arbre, pas une goutte d'eau, soleil et poussière. À l'intérieur des voitures, aux rideaux soigneusement tirés, la température devait bien atteindre 50 degrés. Enfin, ces quelques arbres assoiffés qui se tordaient sur un ciel déteint, annonçaient plusieurs bonnes nouvelles. On était à moins de 2 heures de l'arrivée. On entrait dans les terres de Salina. On pouvait faire collation et peut-être même se laver le visage avec l'eau croupie du puits. 10 minutes plus tard, on arrivait à la ferme de Rampinzeri, une énorme bâtisse, habité seulement pendant un mois de l'année par des ouvriers agricoles, des mulets et des troupeaux qui s'y réunissaient pour la récolte. Sur la porte massive mais défoncée, un guépard sculpté dansait, bien qu'on lui eût brisé jadis les pattes à coups de pierre. À côté du bâtiment, un puits profond, autour duquel les eucalyptus montaient la garde, proposaient silencieusement les divers services dont il était capable. Il faisait office de piscine, d'abreuvoir, de prison, de cimetière. Il désaltérait, propageait le typhus, gardait les gens séquestrés, cachait des charognes de bêtes ou d'hommes et les transformait en squelettes anonymes, lisses comme l'ivoire. Toute la famille Salina descendit de voiture. Le prince était ravi à l'idée d'atteindre bientôt son cher Donna Fugata. La princesse, irritée et inerte à la fois, se sentait réconfortée par le calme de son mari. Les jeunes filles étaient épuisées. Les petits garçons, excités par la nouveauté, la chaleur elle-même n'avait pu les dompter. Mademoiselle Dombreuil, la gouvernante française, se souvenant des années passées en Algérie dans la famille du maréchal Bugeaud, gémissait sans interruption. « mon Dieu, mais c'est pire qu'en Afrique !» tout en essuyant son petit nez retroussé. Le père Pironne était le plus alerte de tous. Il avait trouvé le trajet rapide. La lecture, bientôt interrompue de son bréviaire, lui ayant procuré un confortable sommeil. Une femme de chambre et deux valets, gens de la ville, découvraient avec humeur les aspects insolites de la campagne. Enfin, Bendico, bondissant de la dernière voiture, se répandait en invectives contre les suggestions funèbres des corneilles qui tournoyaient basses dans la lumière. Une poussière blanche recouvrait cils, lèvres et queue en panache. De petits nuages blafards s'élevaient autour de ceux qui, ayant mis pied à terre, se brossaient et se secouaient mutuellement. L'élégante correction de Tancred brillait davantage au milieu du désordre général. Il avait voyagé à cheval et était arrivé une demi-heure avant les autres à la ferme. Il avait eu ainsi le temps de se brosser, de se nettoyer et de changer sa cravate blanche. Tandis qu'il tirait du puits aux nombreux usages un seau d'eau pour sa toilette, il avait été satisfait de l'image que lui renvoyait le miroir liquide. Un bandeau noir sur son œil droit rappelait, plus qu'il ne la soignait, la blessure reçue 3 mois plus tôt durant les combats de Palerme. L'autre œil, d'un bleu sombre, semblait exprimer pour son compte et pour celui du voisin une malice redoutée. Un filet écarlate par-dessus la cravate évoquait discrètement la chemise rouge que Tancred avait portée. Il aida la princesse à descendre de voiture et pousseta de sa manche le haut de forme du prince, distribua des bonbons à ses cousines et des moqueries à ses petits cousins, plia presque le genou devant le jésuite, répondit aux élans passionnés de Bendico, consola Mademoiselle Dubreuil, taquina et enchanta tout le monde. Les cochers faisaient marcher lentement les chevaux en rond pour les rafraîchir avant de les laisser boire. Les valets étendaient des nappes sur la paille, reste du dernier battage dans le rectangle d'ombre qui s'étendait devant la ferme. Près du puits complaisant, la collation commença. Aux alentours, la campagne funèbre ondoyait, jaune de chaume et noir de barbe d'épis calcinée. La lamentation des cigales emplissait le ciel. On aurait dit le râle de la Sicile brûlée qui, à la fin d'août, attend vainement la pluie. Une heure plus tard, réconfortés, les voyageurs se remirent en route. Les chevaux épuisés avançaient plus lentement encore. Mais la dernière partie du parcours sembla brève. Le paysage n'était plus anonyme. Sa dureté sinistre s'était atténuée. On reconnaissait au passage des endroits familiers. Les buts arides de promenades passées, de pique-niques faits les années précédentes. Les gorges de la Dragonara, le carrefour de Missilbessi. On arrivera bientôt à la Madone de Grâce, terme des plus longues promenades à pied. La princesse s'était endormie. Le prince, seul avec elle dans la vaste voiture, se sentait heureux. Il ne s'était jamais autant réjoui de passer 3 mois à Donna Fugata qu'en ce mois d'août 1860. D'abord, parce qu'il aimait ce pays, la maison, les gens, le caractère féodal de la vie qu'il menait là-bas. Et puis, contrairement aux autres années, il ne regrettait aucunement les soirées pacifiques passées dans son observatoire et les visites à Marianina. À part les francs, le spectacle qu'offrait Palerme les trois derniers mois l'avait passablement écœuré. Dans son orgueil, il aurait voulu être le seul à comprendre la situation, à faire bon visage, à l'ogre en chemise rouge. Mais il avait dû se rendre compte que la clairvoyance n'était pas le monopole de la maison Salina. Tous les palermitains semblaient heureux, tous, sauf une poignée de nigauds. Malvika, son beau-frère, s'était fait pincer par la police du dictateur et était resté 10 jours au cachot. Quant à son fils Paul, tout aussi mécontent mais plus prudent, on l'avait laissé en ville, fourré dans Dieu sait quel puéril complot. Tous les autres montraient ostensiblement leur joie. Arboraient partout des revers pavoisés de cocardes tricolores, défilaient du matin au soir et surtout parlaient, déclamaient, haranguaient. Les premiers jours, tout ce vacarme semblait avoir un but et un sens. Des acclamations saluaient les rares blessés passant dans les rues principales. On entendait les gémissements des moutons de la police bourbonienne torturés dans les ruelles. Mais ensuite, une fois les blessés guéris, une fois les moutons survivants enrôlés dans la nouvelle police, ces mascarades semblèrent au prince stupides, grotesques. Bien qu'il en reconnût l'inévitable nécessité, tout cela, à vrai dire, ne constituait qu'une manifestation superficielle de mauvaise éducation. Le fond des choses, la situation économique et sociale était satisfaisante, exactement comme il l'avait prévu. Don Pietro Russo avait tenu ses promesses. On n'avait pas entendu un seul coup de feu aux alentours de la Villa Salina. Et si au palais de Palerme un grand service de porcelaine chinoise avait été volé, on ne le devait qu'à la balourdise de Paul, qui l'avait fait emballer dans 2 paniers, puis avait tout laissé dans la cour pendant le bombardement. C'était vraiment inviter les emballeurs eux-mêmes à le faire disparaître. Les pieds montaient. C'est ainsi que le prince continuait à les appeler pour se rassurer. D'autres les appelaient garibaldiens pour les exalter et d'autres garibaldistes pour les insulter. Les pieds montaient. C'était présenté à lui, sinon vraiment le chapeau à la main, comme on le lui avait prédit. Du moins, cette main à la visière de leur képi rouge, aussi chiffonné et froissé que celui des officiers bourboniens. Annoncé 24 heures à l'avance par Tancrède, un général en jaquette rouge à brandebourg noir s'était présenté vers le 20 juin, suivi de son aide de camp. Il avait courtoisement demandé la permission de voir les fresques des plafonds. On lui donna immédiatement satisfaction. On avait eu le temps depuis la veille d'enlever d'un salon le portrait du roi Ferdinand II dans toute sa pompe. On l'avait remplacé par une peu compromettante piscine probatique. Opération qui joignait les avantages esthétiques aux avantages politiques.
Fiamme di love d'Italia sul cor, veniamo, veniamo, so giovani insieme, vento per tutte le nostre bandiere, so tutti col ferro, so tutti col fuoco, so tutti col fuoco, l'Italia nel cor, va fuori d'Italia, va fuori che la Italia, a Forza Italia, a Forza Italia. volera la terra dormi, di cento catene che vinser la mano, a cor di legnano, ai ferri bravir, a sole tedesco, l'Italia non dama, non cresca nel gioco le serpi di Roma. L'Italia non vuole stranieri e tiranni, né propri sugli anni che dovrà servir, a fare d'Italia, a fare che l'ora, a fuor d'Italia, a fuor d'Italia, a fare a
Et nous revoici ensemble après cet instant musical pour la suite du roman de Lampedusa, Le Guépard.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Le général était un Toscan plein de vivacité, âgé d'une trentaine d'années, bavard et quelque peu fanfaron. Mais par ailleurs bien élevé et sympathique. Il s'était comporté avec le respect voulu, il avait même traité le prince d'excellence. Ce qui était en contradiction absolue avec l'un des premiers décrets du dictateur. L'aide de camp, un blanc bec de 19 ans, était un comte milanais qui fascina les jeunes filles avec ses bottes vernies et ses airs à la française. Ils étaient arrivés en compagnie de Tancrède, promu ou plutôt fait capitaine sur le champ de bataille. Il avait un peu maigri, par suite des souffrances que lui avait infligées sa blessure, et il était là, tout de rouge vêtu, irrésistible, étalant son intimité avec les vainqueurs à grand renfort de « tu », de « mon valeureux ami » réciproque, prodigué par des continentaux avec une ferveur enfantine et repris par Tancrède avec cette voix nasale où le prince savait reconnaître une ironie cachée. Don Fabrice avait reçu ses hôtes du haut de son inexpugnable courtoisie. Il l'avait pleinement diverti et pleinement rassuré. Si bien que 3 jours après, les deux Piémontais furent invités à dîner. Ce fut un spectacle inénarrable. Caroline, assise au piano, accompagnait le général qui, en hommage à la Sicile, s'était aventuré à chanter. Tancrède tournait flegmatiquement les pages de la partition comme si les fausses notes n'eussent pas existé en ce bas monde. Le petit comte, pendant ce temps, penché sur un sofa, parlait de fleurs d'oranger à Concetta et lui révélait l'existence d'Aleardo Aleardi. Tout en faisant semblant d'écouter, elle s'attristait de la mauvaise mine de son cousin, que les bougies du piano faisaient paraître plus languissantes encore. Cette soirée parfaitement idyllique fut suivie de plusieurs autres, également cordiales. Au cours de l'une d'elles, on pria le général d'intervenir pour que l'ordre d'expulsion des jésuites ne fût pas appliqué au père Pirone, que l'on dépeignit comme un vieillard accablé de maux. Le général, qui s'était pris de sympathie pour l'excellent prêtre, feignit de croire à sa misérable situation. Il intrigua, parla à des amis politiques, et le père Pirone resta. Le prince vit l'exactitude de ses prévisions une fois de plus confirmée. Le général se montra également fort utile pour l'attribution des laissez-passer nécessaires à qui voulait se déplacer pendant cette période de trouble. Si les Salinas purent partir sans souci en villégiature, l'année de la Révolution, ce fut pour beaucoup grâce à lui. Le jeune capitaine obtint une permission d'un mois et accompagna sa famille. Le problème des laissez-passer, mis à part, les préparatifs du voyage avaient été longs et compliqués. On avait dû entamer dans les bureaux de l'administration des négociations elliptiques avec des personnes influentes de Gingetti. Négociations qui se conclurent par des sourires, des poignées de main et des tintements de monnaie. On avait obtenu ainsi une sorte de second laissez-passer, plus efficace que le premier, mais ceci n'avait rien de nouveau. Il fallut aussi rassembler des montagnes de bagages et de provisions et expédier 3 jours à l'avance une partie des cuisiniers et des serviteurs. Il fallut emballer un télescope. Il fallut convaincre Paul de rester à Palerme. Après quoi, l'on put partir. Le général et le petit sous-lieutenant étaient venus apporter des fleurs ainsi que leurs vœux de bon voyage. Quand les voitures quittèrent la Villa Salina, 2 bras vêtus de rouge s'agitèrent longuement pour les saluer. Le haut de forme du prince se pencha à la portière, mais la petite main gantée de dentelle noire que le jeune comte espérait voir resta sur les genoux de Concetta. Le voyage avait duré plus de 3 jours et avait été horrible. Les routes, ces fameuses routes siciliennes qui avaient fait perdre sa lieutenance au prince de Satriano, étaient de vagues pistes hérissées d'ornières et bourrées de poussière. La première nuit passée à Marineo, chez un ami notaire, avait été encore supportable, mais la seconde, dans une mauvaise auberge de Prizzi, fut pénible pour les voyageurs, couchés 3 par lit et dévorés par une faune repoussante. La troisième nuit, on était à Bisacchino. Là, il n'y avait pas de punaise. Mais pour compenser, le prince avait trouvé 13 mouches dans son verre de granita. Une lourde odeur d'excréments s'exhalait des commodités contiguës, ce qui donna des cauchemars au prince. Il se réveilla à la pointe de l'aube, englué de sueur et de puanteur, et ne put s'empêcher de comparer ce voyage répugnant à sa propre vie. Elle s'était déroulée d'abord à travers des plaines riantes, avait escaladé des montagnes abruptes, s'était insinuée à travers des gorges menaçantes pour déboucher enfin sur d'interminables ondulations de terrain d'une couleur monotone, déserte comme le désespoir. Ces imaginations matinales étaient bien la pire chose qui pût arriver à un homme d'âge moyen. Le prince savait qu'elles étaient destinées à s'évanouir avec l'activité du jour, mais il en souffrait cependant de façon aiguë. Il avait assez d'expérience pour comprendre que les souffrances déposent peu à peu au fond de l'âme des sédiments de deuil dont l'accumulation quotidienne est en définitive la cause de la mort. Au lever du soleil, ces monstres se réfugièrent dans les zones de l'inconscient. Donna Fugata était désormais tout proche, avec son palais, ses eaux jaillissantes, le souvenir de ses ancêtres, avec cette impression d'enfance éternelle qu'elle savait donner. Les gens y étaient sympathiques, simples et dévoués. Une pensée assaillit le prince. Qui sait si, après les derniers événements, leur dévouement sera le même. Nous verrons bien. On était maintenant arrivé, ou à peu près. Le spirituel visage de Tancrède apparut, penché à la portière. « Préparez-vous, nous y serons dans 5 minutes !» Tancrède avait trop de tact pour précéder le prince dans le village. Il mit son cheval au pas et marcha, d'un air réservé, à côté de la première voiture. Au-delà du petit pont qui menait à l'intérieur du pays, attendaient les autorités entourées de quelques dizaines de paysans. Dès que les voitures s'approchèrent, l'orphéon municipal attaqua avec une fougue frénétique « Nous sommes les petites bohémiennes, salut étrange mais affectueux » que depuis quelques années, Donna Fugata présentait à son prince. Tout de suite après, les cloches de l'église mère et du couvent du Saint-Esprit, avertis par quelques gamins en vedette, emplirent l'air d'un joyeux vacarme. « Grâce à Dieu, tout semble aller comme à l'accoutumée », pensa le prince, en descendant de voiture. Il y avait là Don Calogero Cedara, le maire, les hanches serrées dans une écharpe tricolore toute neuve, comme sa charge. Monseigneur Trottolino, l'archiprêtre, avec sa grosse face boucanée. Don Ciccio Ginestra, le notaire, couvert de jabot et de panache, présent en qualité de capitaine de la garde nationale. Il y avait là Don Toto Schiabone, le médecin. Il y avait la petite Nunzia Giarita, qui tendit à la princesse un bouquet de fleurs tout ébouriffé, cueilli du reste une demi-heure plus tôt dans le jardin du palais. Il y avait aussi Ciccio Tumeo, l'organiste de la cathédrale, qui, à vrai dire, n'avait pas un rang suffisant pour se mêler aux autorités, mais qui était venu tout de même en tant qu'ami et compagnon de chasse. Il avait eu la bonne idée d'amener avec lui, pour faire plaisir au prince, la chienne Teresina, une braque au poil de feu, avec deux petites taches noisettes au-dessus des yeux. Un sourire tout particulier de Don Fabrice le récompensa de sa hardiesse. Le prince était d'excellente humeur et plein d'une sincère bienveillance. Il était descendu de voiture avec sa femme pour remercier, et tandis que la musique de Verdi faisait rage au milieu du vacarme des cloches, il embrassa le maire et serra toutes les mains. La foule des paysans restait muette, mais leurs yeux immobiles trahissaient une curiosité qui n'était nullement hostile. Les pauvres gens de Donna Fugata nourrissaient vraiment une sorte d'affection pour leur tolérant suzerain qui, si souvent, oubliait de réclamer les redevances et les petits loyers. Et puis, habitué à voir le guépard moustachu se dresser sur la façade du palais, sur le fronton de l'église, sur les fontaines baroques, sur les carrelages de céramique des maisons, ils étaient heureux de contempler maintenant le guépard authentique, en pantalon de piqué, distribuant des coups de pattes amicaux et souriant avec la bonhomie d'un félin courtois. Il n'y a pas à dire. Tout va comme avant, mieux qu'avant même. Voilà, nous avons terminé pour ce soir la lecture de ce roman de Lampedusa, Le Guépard, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.